propose de faire une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, au verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit : Si par l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, eh bien, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Amen. Et nous connaissons la suite, nous savons qu'effectivement, eh bien, la maison d'Élie ne fera plus partie de ce sacerdoce. Premier trait de caractère que je tiens à souligner, ou le seul que je soulignerai ce soir vraisemblablement, c'est que l'homme de Dieu ne fait exception de personne. Ici, nous avons quelque chose qui m'a profondément choqué, ou du moins qui m'a profondément intéressé. Cet homme de Dieu, puisqu'il est défini ainsi par la parole du Seigneur, est un anonyme, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son prénom. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son origine. On ne sait pas s'il est de lignée royale ou s'il est fils, eh bien, de quelqu'un ayant une position beaucoup moins noble. C'est un anonyme. On ne sait pas ce qu'il deviendra, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il reçoit de la part de Dieu cet ordre d'aller trouver un homme qui avait une position élevée dans la société, qui était le sacrificateur Élie, et de lui annoncer ce jugement terrible qui viendra sur sa vie. Nous reviendrons sur cette notion de jugement dimanche, certainement. Et ce n'est pas n'importe qui, Élie. Et pourtant, cet anonyme va aller le trouver et va lui dire, va lui donner le message de la part de Dieu. Vous savez, je crois que les anonymes, c'est eux qui constituent l'Église. L'Église n'est pas composée de noms, mais elle est composée de pierres vivantes qui sont ajoutées par le Saint-Esprit, qui forment un édifice spirituel, et qui sont connues de Dieu, mais qui ne sont pas forcément connues des hommes. Je crois de tout mon cœur que quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que bien des anonymes ont jalonné le chemin, que ce soit de Jésus ou des disciples ou des apôtres. La Bible regorge d'anonymes, de gens dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas les qualités, mais qui à un moment donné ont marqué le cœur, ont marqué l'histoire de la parole de Dieu. On ne connaît pas le nom du gamin qui a donné ses pains et ses poissons. On ne connaît pas le nom de la servante de Naaman. On ne connaît pas tous les collaborateurs de l'apôtre Paul. Pourtant, ce sont des hommes et des femmes dont le Seigneur s'est servi. Et je crois que même des anonymes, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas sur une estrade, des hommes qui ne sont pas en vue, toi mon frère, toi ma sœur peut-être, qui te cache au fond et puis qui n'aime surtout pas être vu, toi aussi tu peux recevoir des paroles de la part de Dieu. Toi aussi tu peux être amené à donner des paroles de la part de Dieu. Toi aussi tu peux être un outil entre les mains du Seigneur pour une mission compliquée, difficile, mais qui n'en reste pas moins glorieuse. Toi aussi, tu peux être utilisé par le Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux avoir ta marque. Toi aussi, tu peux laisser quelque chose dans le cœur de quelqu'un de la part de Dieu. C'est une réalité. Dieu ne se sert pas des noms, mais Dieu se sert des hommes et des femmes. Dieu ne se sert pas des titres, mais Dieu se sert des hommes et des femmes disposés à le servir. Dieu ne se sert pas d'une notoriété, mais Dieu se sert de celui qui accepte de courber son cœur et d'être à son service. Les anonymes composent l'Église de Dieu et Dieu se sert d'eux. Vous le croyez ? Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien de repasser cette pensée sur mon cœur. De me dire que le Saint-Esprit est capable de se servir de chacun d'entre vous. savez, le prophète Élie, il a commencé à tomber en dépression quand il a oublié qu'il y avait des anonymes qui étaient autour de lui. Il a oublié qu'il y avait un Abdias qui avait caché les prophètes de l'Éternel. Et il avait oublié que des hommes n'avaient pas réfléchi le genou devant Baal. Je peux vous le dire, vous êtes un encouragement pour les ministères. Vous êtes un encouragement pour mon ministère. Je le dis du fond du cœur. Et je crois que Dieu, pour Dieu, vous n'êtes absolument pas des anonymes. Il vous connaît par votre nom. Il connaît votre vie. Et ce qu'il souhaite par-dessus tout, eh bien, c'est se servir de vous. Nous avons, et vous pouvez manifester, les qualités, les capacités d'un homme et d'une femme de Dieu. Élie était sacrificateur. Il va s'approcher de lui, comme de quelqu'un d'important, je l'ai souligné. Et en plus, il va le faire dans un contexte, le contexte des juges, qui était un contexte particulièrement sombre. C'est le temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et finalement, l'attitude des fils d'Élie, elle peut nous surprendre. Vous savez qu'ils allaient piocher dans la marmite, qu'ils volaient les prémices des offrandes qui étaient faites à Dieu. Ça peut nous surprendre, mais je ne suis pas certain que ça pouvait choquer tout le monde à l'époque. Peut-être que si, peut-être que non, mais le monde du temps des juges était tellement, tellement sombre, tellement noir, que l'attitude de l'homme de Dieu pouvait peut-être paraître choquante, pouvait paraître courageuse. Je crois sincèrement que cet homme, quelque part, avançait à contre-courant. L'homme de Dieu ne fait exception de personne. Il donne les paroles de Dieu, quelle que soit la personne qu'il a en face. Et pour ça, il nécessaire de faire preuve de courage. Nous avons besoin de courage pour annoncer la vérité. Nous avons besoin de courage pour regarder Jean en face. Nous avons besoin de courage, même dans notre société, pour expliquer que finalement, il y a un Dieu et que ce Dieu aime les hommes et que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais que, eh bien, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous avons besoin de courage pour prendre des positions. Nous avons besoin de courage. Et vous savez, dans les Écritures, ce n'est pas l'onction qui emmène le courage, mais c'est le courage qui emmène l'onction. Regardez dans les Actes des Apôtres. L'Église est dehors, les disciples sont dehors, ils parlent de Jésus, ils manifestent du courage, et là, ils sont traînés devant le Sanhédrin. J'aime beaucoup ce passage lorsque les érudits du Sanhédrin vont être étonnés devant l'assurance que manifeste l'apôtre Pierre. Non mais, ces hommes ne sont-ils pas des gens du peuple, sans instruction ? L'onction est sur eux. Et ce que j'aime encore plus, c'est que lorsqu'ils ressortent du Sanhédrin, ils sont morts de trouille. Et qu'il faut que le lieu dans lequel il y ait une visitation de l'Esprit de Dieu, afin qu'ils reprennent courage, afin qu'ils continuent leur mission. N'inversons pas les choses. Le baptême dans le Saint-Esprit, ceux qui y aspirent, ceux qui, pour le recevoir, il est nécessaire de vouloir l'utiliser. Le baptême dans le Saint-Esprit, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être un petit peu trop forte, n'est pas donné à des touristes spirituels. Mais il est donné à des hommes et des femmes qui le capitaliseront, qui diront, eh bien, je veux avoir le courage de l'utiliser, je veux avoir le courage d'utiliser ce revêtement de force, d'amour, ce revêtement de puissance qui balayera ma timidité et qui accentuera encore, eh bien, mon amour, ma sagesse et ma force. Vous comprenez ? L'homme de Dieu, il avance, et le Saint-Esprit, il avance sur l'ordre de Dieu. Il parle de la part de Dieu, ce qui est la définition littérale d'un prophète, d'ailleurs, entre nous soit dit. Et ensuite, l'onction vient. Ensuite, l'assurance vient. Ensuite, le Saint-Esprit assiste. Ensuite, le Saint-Esprit fait du bien. Nous, nous attendons d'être visités par le Saint-Esprit pour partir. Mais en réalité, partons et le Saint-Esprit vous accompagnera à condition que l'on soit dans sa parole. Mais quand il s'agit d'annoncer le nom du Seigneur Jésus, en règle générale, on est dans sa parole. Et Dieu restera et demeurera fidèle. La source du courage, c'est tout simplement l'amour pour le peuple. l'amour pour l'œuvre de Dieu. Et je crois que ce titre d'homme de Dieu est, pour ne faire exception de personne, il faut être courageux. Pour traiter les hommes qui nous entourent sur le même pied, sur la même égalité, il faut être capable de faire preuve de courage. Et c'est une capacité qui peut-être nous manque parfois. Les reproches sont durs. Quand vous lisez la suite du texte, ou même ce que nous avons lu, c'est quand même un tantinet violent. Cet homme annonce à Élie, plus tard, la mort de ses deux fils notamment. Et ce, parce qu'il honore ses enfants, ou plutôt, il préfère privilégier l'amour de ses enfants plutôt que le devoir de son titre. Quel est l'ordre des choses? C'est une question qui m'est souvent posée dans les entretiens, ça. Question piège par excellence. C'est quoi l'ordre des choses? Ce texte nous le révèle. Dieu en premier. Femme ensuite. Les enfants ensuite. Mes amis, etc. L'ordre, il est immuable. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où Dieu est en premier, que se passe-t-il? Je deviens un mari extraordinaire, n'est-ce pas chérie? Elle fait oui de la tête. Parce que ça va bien avec ma femme, ou avec mon mari. Alors, je suis. Et que ça va bien avec Dieu, alors mes capacités de parent, elles sont bonnes aussi. Mais à partir du moment où l'ordre est inversé, comme ça l'était pour le prophète Élie, pour le sacrificateur Élie, pardon, ne nous trompons pas, pour le sacrificateur Élie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu est oublié. Dieu est délaissé. Et Élie, en privilégiant ses fils, est devenu un mauvais père. Vous savez, ce qu'il est reproché à David, c'est sa vie de famille. Notamment lorsqu'on voit ce drame où Amnon viole sa sœur Tamar. Et il y a ce texte, qui n'est pas d'ailleurs présent dans tous les manuscrits, qui dit que David ne fera aucun reproche. Un petit peu plus loin, il est dit à propos d'Adonijah que David ne lui avait jamais fait un seul reproche. Pourtant, David, l'homme selon le cœur de Dieu, aura été un père qui n'aura pas été un père modèle. C'est comme si il avait mis ses enfants sur un piédestal ou s'il avait manqué de courage. Élie, tu as manqué de courage. Tu as manqué de courage. L'homme de Dieu ne fait exception de personne. Il manifeste le courage même par rapport aux siens, même par rapport à sa propre famille, même par rapport à ceux qui, finalement, lui tiennent à cœur. Il traite tout le monde avec le même pied d'égalité, tout simplement parce que Dieu lui-même ne fait exception de personne. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre en Jésus. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité dans le cœur de Dieu. Tous ! Bruno comme Claudia. Pareil. Il nous aime de la même manière. Il aime les pasteurs comme il aime les chrétiens. De la même manière. Il n'y a pas un amour plus grand pour nous. Non, c'est faux. Il vous aime tout comme moi. Nous sommes tous ses enfants. Il ne fait exception de personne. Il n'a pas de chouchou. Et de la même manière, dans l'Église, l'apôtre Jacques nous enseigne qu'il faut faire la même chose et ne pas donner une considération trop élevée à quelqu'un qui rentrerait avec un anneau d'or et lui dire « viens t'asseoir devant, quitte à virer le pauvre qui est devant. » Mais que, le pauvre comme le riche, dans l'Église, le cultivé comme celui qui l'est un petit peu moins, l'homme comme la femme, l'enfant comme le vieillard, ont droit au même traitement. Et à la même considération. C'est ça la communion fraternelle. C'est ça le vrai sens de Dieu. L'homme de Dieu ne fait exception de personne. Et là, on peut se poser cette question, est-ce mon cas?
Je me la suis posée. J'y ai répondu. Vous ne donnerez pas ma réponse. Est-ce mon cas ? Non, pas moi, mais le vôtre. Hein. Est-ce que, quelque chose de très simple, dans ma manière de... Est-ce que je vais dire bonjour à tout le monde ? Ou alors est-ce qu'il y a certaines personnes ? J'ai du mal. Voilà, je sais pas quoi leur dire, je sais pas comment faire, je les connais pas, et puis peut-être que finalement, elles me sont complètement indifférentes. C'est un bon test. Si jamais c'est le cas, va les voir en premier. Et tu accompliras là le trait de caractère d'un homme de Dieu. Est-ce que je suis capable de manifester la même qualité d'écoute ? Est-ce que je suis capable de passer... Est-ce que je suis capable de prêter la même attention ? De donner la même affection ? De prêter le même amour ? De rendre le même service ? Je mets la barre haute, hein. Ne fais exception de personne. Il en va de même pour le niveau spirituel. L'apôtre Paul, même si les Corinthiens, il aurait aimé donner de la viande aux Corinthiens, spirituellement parlant, il va accepter de leur donner du lait. Et il ne va pas moins les aimer que les autres églises, malgré tous les défauts qu'ils pourront avoir. C'est exactement la même chose. L'homme de Dieu ne fait exception de personne. Il traite chaque individu comme étant aimé de Dieu. Considère ton frère comme étant aimé de Dieu au même titre que toi. Pécheur sauvé par grâce, animé par le Saint-Esprit, travaillé par le Saint-Esprit. Quelle belle image. On peut tourner cela dans notre cœur et se laisser imprégner et se dire, Seigneur, pardon, parce que j'ai méprisé mon frère. Pardon, parce que peut-être j'ai méprisé ma sœur. Pardon parce que les regards que j'ai posés sur un tel, pardon parce que les regards que j'ai posés sur une telle étaient finalement des regards de jugement plus que des regards de compassion. Pardon. Parce que toute une partie de la famille de Dieu, je la mets à l'écart. Elle ne fait pas partie de mon petit monde. Pardon, Seigneur. L'homme de Dieu utilise tout ce que sa main trouve à faire. Quand tu peux faire du bien, fais-le. Quand tu peux faire du bien, fais-le. Ne retiens pas ta main. C'est un point qui n'est peut-être pas le plus connu de l'homme de Dieu. On l'imagine souvent en train de prier, on l'imagine souvent en train de faire des miracles. On l'imagine souvent en train de faire des choses extraordinaires. Mais pourtant, que ce soit devant Élie, ou que ce soit devant quelqu'un d'autre, cet homme aurait donné le même message si Dieu le lui avait demandé. Je suis admiratif du prophète Nathan qui va aller devant David. Il va y aller avec une petite histoire. Il est malin, Nathan. Avec une petite parabole. Oh, tu sais, dis-moi, toi qui es très sage, imagine un propriétaire qui a beaucoup de brebis. Puis un invité bien passe. Et puis il va piquer celle qui est dans le champ du voisin, mais il n'en a qu'une seule. T'en penses quoi, David ? Cet homme mérite la mort. Ben, cet homme, David, c'est toi. Il est malin, Nathan. N'empêche qu'il va quand même s'approcher de David. Il va quand même lui dire les choses. Il va aller jusqu'au bout du message. Quelle que soit la personne, il va au bout du message. Que le Seigneur nous aide et nous donne ce courage. Peut-être parfois d'aller taper sur l'épaule de notre frère et lui dire, écoute, ça va pas. Tout en restant équilibré de grâce. Il ne s'agit pas de fonctionner à coup de révélation, il ne s'agit pas de fonctionner sur des faits. Je vais le faire, ça sera ma conclusion, promis. La manière dont il procède. Premièrement, il le fait avec autorité de la part de Dieu. D'accord ? Et quelqu'un qui vient vous voir en bégayant, sans trop savoir les choses, en général, quand on parle de la part de Dieu, il y a une autorité qui vient. Poum ! C'est clair, c'est net. Ça passe pas par 3, par 4 chemins. Deuxième point, il se base sur des faits précis et non sur des spéculations. Tes fils, Élie, ils font n'importe quoi. Et tu les laisses faire. C'est pas une révélation émotionnelle, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, c'est pas une sensation, c'est pas quelque chose que l'on ressent vaguement, mais c'est un fait précis qui est basé sur une réalité et non pas sur un fantasme ou sur un désir. D'accord ? Donc si un jour on vient vous voir basé avec quelque chose qui est basé sur un « je pense que », vous le balayez de suite. Troisième point, il dit peut-être tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Il aime bien cette notion. On en revient à cette notion de courage. Quatrièmement, il ne dénonce pas des questions d'opinion, mais il dénonce des questions spirituelles, des fondements spirituels. Il dénonce quelque chose qui a trait avec notre santé spirituelle. Pas des manières de faire, pas des manières d'être, mais véritablement quelque chose qui impacte notre salut et qui impacte notre manière d'être, qui impacte notre service, qui impacte notre identité d'enfant de Dieu. Cinquièmement, il y a une dizaine de points, ne vous inquiétez pas. Il se base sur des paroles de Dieu qu'Élie reconnaît et non sur des expériences personnelles ou sur une vie subjective. Élie, tu as été établi de père en fils. Et ton père lui-même est issu d'un peuple que Dieu a choisi alors qu'il était encore sous Pharaon. Il ramène Élie à sa responsabilité. Il ramène Élie à son devoir. Il ramène Élie à ce qu'il est et à ce qu'il connaît. Il se fonde sur l'appel d'Élie et sur ce qu'Élie est. Vous savez, je n'aurai pas le temps. Il y a 4 choses, il y a 4 niveaux. Promis, c'est la conclusion de ma conclusion. Comment être clair ? Il y a 4 choses où il ne faut pas se tromper. On ne peut pas dénoncer tous les problèmes d'un seul coup. Ou on ne peut pas traiter tous les problèmes de la même manière. Quelqu'un peut pécher par ignorance. Auquel cas, l'apôtre Paul le dira, d'ailleurs, lorsqu'il écrit à Timothée, auparavant j'étais blasphémateur, etc. Mais j'étais dans l'ignorance, et Dieu m'a fait grâce. Mais Paul est tout de même passé par une repentance, même s'il était dans l'ignorance. Et quelqu'un qui tombe par ignorance, on ne le traite pas de la même manière que quelqu'un qui tombe en faisant... C'est un incident de parcours, une chute de parcours. Le jugement, plutôt, la manière dont on ira le trouver, c'est presque pastoral ce que je vous dis, ne le dites pas à mes collègues, d'accord ? La manière dont on va le trouver n'est pas du tout de la même chose. Quand on va trouver un jeune converti en lui disant « Écoute Claudia, arrête de faire ça. Sois plus gentille, sois plus soumise avec ton pasteur. C'est pas bien d'être une rebelle. » Elle est pêchée par ignorance quand on le lui a dit. Elle est devenue une brebis modèle. Elle est passée par une repentance. Ensuite, l'incident, c'est qu'elle me marche sur le pied, volontairement. C'est un incident de parcours, comme il peut en arriver à tous les chrétiens de tomber, parce que la marche avec Dieu, c'est tout sauf facile. Mais dans ces cas-là, on traite pourquoi cet incident de parcours. Comment ça se fait ? Troisième cas, c'est l'accident, qui lui, n'impacte pas forcément que la personne qui est tombée, mais qui est connu, qui commence déjà à être public, et qui parfois est beaucoup plus violent, qui en général fait suite à plusieurs incidents. Vous me suivez ? Dans ces cas-là, à partir du moment où une tierce personne est impliquée, il y a nécessité de pardon. Il y a nécessité de demander pardon, et il y a nécessité d'accepter le pardon. Seul le pardon débloque les situations. Et le pardon véritable, et pas celui où on va vous taper sur l'épaule en vous disant « faut pardonner ». Non, pardon qui vient d'une conviction personnelle. Et quatrième chose, c'est l'état. C'est l'état dans lequel Élie était.
C'est pour ça que la déclaration de l'homme de Dieu est aussi dure et aussi difficile et aussi violente. C'est parce que quelque part, je crois, on le verra dimanche, mais Dieu voulait un électrochoc pour son prophète. Élie retrouve la vue. Pour son sacrificateur, pardon. Élie retrouve la vue. De la même manière que Ézéchias, lorsque Dieu lui a annoncé la mort, il s'est couché, il s'est tourné vers le mur et il a invoqué Dieu. De la même manière que les Ninivites, lorsqu'ils ont entendu la prédication ô combien fervente de Jonas, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était ironique, la prédication fervente de Jonas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont déclaré un jeûne national. Même les animaux étaient censés jeûner. Bref, parfois Dieu peut susciter des électrochocs, de la même manière que l'apôtre Paul en suscitera un dans l'église de Corinthe, dans ce cas d'inceste. Dehors. Parce que il était question non pas d'un incident, non pas d'un accident de parcours, non pas d'un péché qui était fait par ignorance, mais c'était un état, cet homme était profondément impudique. Et dans la seconde aux Corinthiens, l'apôtre Paul demande aux Corinthiens de le réintégrer parce que la discipline lui aura servi à quelque chose. Il se peut que dans nos vies, lorsqu'il y a un état, l'état, c'est quand on est habitué et qu'on aime. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé notamment de ceux qui sont habitués au mensonge, qui aiment le mensonge et qui aiment d'autres pratiques. Ce n'est pas une chute occasionnelle, mais on aime notre péché. Dans ces cas-là, il faut une discipline divine. Et comme m'a dit quelqu'un un jour, la discipline divine, c'est autre chose que la discipline des hommes. La discipline des hommes nous fait descendre d'une estrade. La discipline divine nous fait descendre notre piédestal. Et c'est bien autre chose. Et lorsqu'il y a un état, il faut accepter que Dieu brise le vase et le recommence. Elle recommence. Il faut accepter parfois que Dieu brise des personnes qui sont à côté de nous pour recommencer sans en vouloir à Dieu. Ça va ? L'homme de Dieu ne fait exception de personne. Il traite tous les hommes de la même manière, mais en tenant compte de ce que sont les hommes. En tenant compte de leur faute, en tenant compte du degré de leur faute, de la récurrence de leur faute. Jésus avec la Samaritaine, il faut vraiment que je m'arrête. Jésus avec la Samaritaine, il est allé avec tellement d'amour, tellement de précautions. Il commence à faire sauter les obstacles historiques, puis religieux, etc. avant d'arriver à son péché. Parce que cette femme était dans l'ignorance. Par contre, avec les pharisiens, il les rattrapa. Avec la femme adultère, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Jésus, connaissez les cœurs et tenez compte de chacun. Tenons compte de celui qui nous entoure avant de le lapider et avant de le juger. Manifestons-lui tout l'amour qu'il mérite parce que Dieu l'aime. Comme nous, et au même titre que nous, alors que son nom soit béni. Amen.